Merci. Merci pour cet exposé. Moi, j'ai vraiment enchanté parce que ça recoupe vraiment plein de choses. Vraiment, c'est une bonne idée de m'inviter à participer parce qu'on est dans des choses assez proches. Notamment, je pense, dans les deux rapprochements. C'est d'une part entre l'analyse de controverse et le sensible. Bon, c'est un vieux truc, mais c'est vrai que ça se renouvelle beaucoup. C'est intéressant. Alors je signale à ce propos que la semaine dernière, j'étais discutant et organisateur d'un colloque sur l'émotion dans la participation avec notamment Christophe Trémy et Lamar de Bio Fournier et compagnie. Et il a été beaucoup question d'émotion. À la fois, donc les politiques se sont emparés énormément de cette question. Je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup avancé quand même sur le fond affect, émotion, perception, sensible, etc. Il mélange un peu tout, mais enfin, en tout cas, il y a quand même cette idée que maintenant c'est au cœur, qu'on ne peut pas l'éliminer comme un truc. Voilà. Et donc voilà, c'était la semaine dernière. Alors, je ne pense pas qu'il y aurait des actes, mais il y avait pas mal de papiers intéressants, peut-être qu'on peut les obtenir. Je pense. Bon, c'était une réaction comme ça. Il y avait une autre réaction à chaud, avant de partir dans mon truc. Tu parlais des risques émergents qui sont environnementaux. Alors, je suis d'accord, bien sûr, parce que je parlais beaucoup là-dessus, mais il y a quand même deux autres formes de risques aujourd'hui qui nous prennent la tête. C'est évidemment le terrorisme, on ne parle pas, les sécurités. C'est là, le Québec, il n'a pas grand-chose à dire. Et le numérique, sur lequel il n'a pas grand-chose non plus à dire, parce que bon, en 86, on veut dire que le web n'était pas franchement, pour des intellos allemands, c'était pas très tangible, quoi. Même si ça existait déjà de manière crypto, cryptée, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, je sais pas, moi je travaille beaucoup sur Wikileaks, sur l'affaire Snowden, des choses comme ça, on est face à des risques d'une nature qui sont aussi systémiques et qui ne sont pas forcément absolument isomorphes, même si ça va se croiser, évidemment, on va le voir. Enfin, voilà, c'était juste de réaction, mais c'est pour la discussion, parce que non, j'ai trouvé ça génial, et puis bon, comme j'ai des contacts avec le Brésil, vous êtes pour moi des gens importants. Parce qu'il faut qu'on se voit pour nous aider à construire. Alors, j'ai des questions travaillées sur Rio Doce, la fameuse catastrophe du barrage, mais à plusieurs échelles, et on en parlera. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas redire toute l'importance qu'il y a à se lancer dans ce que tu as présenté. J'ai rassemblé un certain nombre d'éléments, donc je n'ai pas forcément rien inventé. Donc, ceux qui nous connaissent vont forcément retomber sur des choses qu'ils ont déjà vues, mais. J'imagine que ce n'est pas la majorité non plus, donc il faut bien que j'explique. Donc moi, je travaille sur une foule de controverses depuis longtemps, et j'essaye de modéliser un peu ce que nous apprennent, non seulement ces controverses prises une par une, mais leurs interactions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui traiter le nucléaire sans penser aux OGM. Alors, ça paraît bizarre. Voilà. Ben si. Vous avez des formes de mobilisation, il y a des acteurs qui passent de l'un à l'autre, vous avez des concepts, le principe de précaution, la question du futur, des générations futures, par exemple, sur l'irréversibilité qui m'intéresse particulièrement. Bref, ces controverses sont toutes entremêlées, donc ça nous met face à une complexité un peu particulière. Et alors, autre réaction par rapport à ce que tu as dit, on va effectivement vers quelque chose de post-canonien où il y a plus de participatif, mais on a aussi une réaction en face. Vous appelez les connards de service, mais et donc qui d'ailleurs utilisent l'expression de perception du risque. Donc je ne veux pas me perdre de temps ici sur la bande à Gérald Brunner et compagnie, mais enfin là c'est nos ennemis. Il y a une réaction, c'est-à-dire qu'en fait cette approche où on écoute plus les populations, on entre dans la complexité, dans le sens où on remet en cause une certaine approche très rationaliste du savoir, etc. Évidemment, c'est un champ de force. C'est-à-dire qu'en face, ça réagit. Hein. C'est pas, ça passe pas partout. Et en ce moment, compte tenu de l'évolution, on va dire, des configurations politiques, on n'a pas le sentiment que notre avenir soit forcément garanti. Hein. Donc attention à ne pas avoir une version très linéaire, alors qu'on a dénoncé justement la notion de progrès et la linéarité. Et là, on est dans des turbulences, je trouve, excellentes. Nous-mêmes pris, finalement, dans des controverses. Et moi, ma façon de participer, c'est d'essayer de faire résister des approches alternatives dans ce monde turbulent. Bon, on était sur des scènes sur les OGM, ce qui m'a amené, par exemple, à une position, je la pose tout de suite, qu'on en discutera, je ne vais pas la développer plus que ça aujourd'hui, c'est qu'en gros, défendre face à des imbéciles rationalistes, il y en a encore beaucoup, que le conflit n'est pas le mal en soi, c'est pas le négatif, c'est au contraire un des leviers de la production des connaissances. et que heureusement qu'il y a des conflits. Donc arrêtons de dire il faut sortir des conflits, il faut arrêter la conflictualité. Donc on fait avec Jean-Michel Fournier un séminaire qui s'appelle Pragmatisme et conflictualité, ce qui est en fait paradoxalement un truc qui n'a pas beaucoup été travaillé, parce qu'on a tendance à penser les pragmatistes comme des bisounours et la conflictualité comme l'espèce de post-marxisme agonistique. Genre Chantal Mouffe, que j'aime bien aussi, on en parlera, Ernesto Laclau, je suppose que tu connais tout ça, tout ce courant qui est post-structuraliste et qui fait du conflit, de l'agonistique, précisément le politique. C'est-à-dire dire une différence, dire un désaccord, c'est aussi important que le consensus mou. Bon. Donc, du coup, le fait de ne pas euphémiser et de lever les malentendus et de clarifier les incommensurabilités produit de la connaissance, parce que ça oblige les acteurs à aller chercher des ressources pour dire j'ai raison, et face en général à des tiers, un public, parce que l'adversaire, c'est rare qu'on arrive à le convaincre, enfin bon. Donc c'est assez intéressant, comme le pragmatisme a une vertu cardinale qui n'est pas simplement l'expérimentation, mais aussi le pluralisme, le fait de regarder sérieusement les conflits, ça nous fait apparaître la pluralité des formes de vie qui sont incommensurables et qu'il ne faudra pas chercher à faire converger à tout prix. D'ailleurs, moi je prends le zadiste évidemment complètement dans mon paysage, vous l'avez compris, je ne suis pas zadiste pour l'instant, mais... zone à défendre, à la limite, ça peut être un centre de recherche demain. Alors, ça peut être ici, peut-être. Paradoxalement, puisqu'au début, quand ça a été créé par notamment Dominique Bolton, c'était plutôt l'ennemi, quoi, c'est cette espèce de truc. Et ça peut devenir. Vous voyez, donc tout est en transformation. Et l'entrée par les conflits est quand même très. Donc, sur les OGM, je me suis fait beaucoup d'ennemis, puisqu'on m'a traité de postmoderne, plus dangereux que Calon encore. Hein, il y a des textes en ligne, en disant l'histoire des OGM n'est pas une controverse ratée. Arrêtez de dire que c'est une controverse ratée, c'est un conflit réussi. C'est-à-dire qu'au fond, des options se sont affirmées publiquement. Par exemple, évidemment, une agriculture bio. Évidemment, le fait qu'on avait quand même un problème avec la brevetabilité du vivant et notamment du végétal, etc. Que l'agrobusiness, c'est bien, mais qu'il faut que ça va en sortir, etc., etc. Et donc, finalement, le conflit des OGM a apporté énormément de choses et fait apparaître des savoirs, comme plus celui des semences paysannes. Donc, là, Joël n'est pas là, mais évidemment, le réseau semences paysannes est typiquement un produit politique visible de la controverse des OGM, mais qui produit des pratiques et qui fait lui-même le travail entre controverse et sensible.
Et ça vient du rural, c'est
intéressant. Et là, il y a un très bel article d'Élise de Melenard que je cite souvent, parce que je l'avais voulu en tout cas travailler normalement, qui fait le lien notamment entre analyse de controverse, enfin, voir le réseau de semences paysannes comme un acteur de la controverse et en même temps comme une communauté de pratiques, puisqu'il s'agit véritablement de semer et de semer la diversité, comme ils disent. Parce que c'est leur slogan, mais ils le font, quoi. Ils le font, et c'est des vrais experts impressionnants, quoi. Sur d'ailleurs, le Muséum d'Histoire Naturelle a beaucoup d'échanges maintenant avec Isabelle Gondringer ou d'autres gens. Bref, moi, ce que je veux montrer, c'est que là, aujourd'hui où j'en suis, c'est effectivement rebondir sur l'analyse de controverse telle qu'on a su l'outiller, etc., en repartant des échanges sensibles au cœur des milieux. Donc la notion de milieu, je ne vais pas la développer ici, il y a tout un chapitre d'un bouquin à venir, c'est une extension de ce que Augustin Berg a développé. Ouais. Bon, on ne va pas rentrer dans Augustin Berg. Je trouve parfois il y a quand même une esthétisation du milieu chez Berg qui est un peu gênante. Voilà, mes milieux, ils sont pleins de frictions. Donc, je préfère un autre auteur dont je suis assez fan, qui s'appelle Anna Tsing. Donc, j'avais beaucoup utilisé le premier bouquin connu qui s'appelle Friction, qui était An Ethnography of Global Connections. C'est-à-dire comment, en fait, les conflits de standardisation et de normalisation à l'échelle globale se joue sur des échelles, en l'occurrence dans la forêt indonésienne, et comment plein d'acteurs en fait redéfinissent le local et le global dans leur friction. Et là, il vient de sortir un bouquin qui est intéressant pour moi, et pour toi aussi, puisqu'il parle de Wynne, « The Mushroom at the End of the World »,«
Le réseau devient mycélium »,«
On the possibility of life in capitalist ruins ». Et donc là, en gros, c'est l'anti-bonneuil garanti. Avec ça, vous avez un très bon anti-bonneuil. Alors l'anti-bonneuil, c'est comme les anti-histaminiques ou les trucs comme ça. Si vous êtes contaminé par l'anthropocénique capitalocène, le délire globalisant de la pensée, machin, avec ça, vous avez le contraire. Donc après, bon, il faut savoir mesurer les choses. Mais on est dans un espace agonistique aussi, donc il faut le dire, on ne va pas mettre sous la table les trucs. C'est-à-dire qu'on a eu, et une partie de mon topo est marquée encore par ça, c'est-à-dire cette espèce de mode anthropocénique, qui j'ai été même ici dans un jury de thèse sur un truc qui s'appelle « Penser le futur à l'ère de l'anthropocène ». J'aime bien « à l'ère de l'anthropocène », ça marche tout seul, il faut le mettre n'importe quoi « à l'ère de l'anthropocène ». Donc cette question anthropocène, évidemment, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'en font les acteurs dans leur monde. Donc on est tout à fait communication là-dessus. Alors, voilà. En fait, je pourrais rester, moi aussi je peux être très long, donc arrêtez-moi. Là, la controverse, elle a lieu au moment précis où ce gars m'explique. Alors lui, c'est un viticulteur du Médoc. qui a 3 hectares de vignes en biodynamie. Évidemment, c'est un alter. Quand vous allez dans goûter son vin, vous avez dans son chai, vous fermez la porte et vous avez la fiche de réseau sortir du nucléaire. Bon. Mais là, il a décidé de greffer lui-même un certain nombre de nouveaux plants pour évidemment arrêter de les acheter. Comme vous savez, le greffon de vigne et le porte-greffe, il est vendu, etc., en série, etc., pour essayer de, comme il dit, donner une chance pour les 40 ou 50 ans à venir, en greffant une nouvelle pied de vigne sur un ancien, de façon à s'assurer qu'il va franchir les 50 ans d'hiver, d'été, de printemps, qui ne ressemblent plus à rien dans cette région-là. Oui. Parce que pour eux, le changement climatique, c'est une réalité quasi quotidienne. Il n'y a plus un hiver normal. Il y a des grêles au moment où on ne les attend plus. Donc pour les vignerons, et surtout des petits vignerons qui ont justement en bio, qui font tout à la main avec le cheval, en plus, qui se fait maltraiter par les mecs d'à côté. On y reviendra, il y a un champ de force aussi là. Donc moi je pars de là, je regarde les acteurs dans leur pratique, comment justement ils font des défis en disant je fais de la biodynamie dans le Médoc, ce qui n'est déjà pas évident. Il y a un gros château qui en fait un peu, mais ils ont refusé de nous recevoir, et d'après ce qu'on sait, effectivement, c'est surtout un effet de certification et de marque. Mais il y en a qui font vraiment des expérimentations, donc on est vraiment là-dedans. Et alors on pourrait rentrer dans la vigne, hein, je ne vais pas le faire. Vous avez juste en face, vous traversez le chemin, vous avez ce qu'ils appellent les chimiques. Donc les chimiques, vous avez reconnu, c'est là où il y a de l'herbe. Hein. Alors c'est compliqué cette histoire d'herbe, parce qu'au début on croit que c'est parce que... Ben non, attends, s'ils mettent de la chimie, ça devrait tout raser. Non, c'est parce qu'en fait, pour calculer leur droit au passage au phytosanitaire, ils ont besoin en fait d'utiliser une bande. Et ça produit en fait cet effet paradoxal, c'est que chez les bio, c'est labouré au cheval, à la main, enfin, etc., ils s'emmerdent. Et de l'autre côté, donc de l'autre côté du chemin, là, un jour je vais montrer une photo où on voit les deux, etc. Alors évidemment, le chimique, c'est l'industrie avec tous ces machins, et c'est tout dégueulasse qui fait qu'aujourd'hui il y a une vraie cause des travailleurs et de la vigne qui est maintenant bien, bien constituée, avec des problèmes sérieux, y compris des riverains qui sont en rébellion, donc c'est ça la rébellion des villes. Ce qui est nouveau parce que pendant des années ça a été quand même la chape de silence, etc. Et en face, vous avez le bio, et qui, évidemment, récupère une partie de la nature qui aime bien, qui aime plutôt le bio, plutôt. En fait, on a longtemps communiqué sur cette image, enfin, il y a longtemps, ça fait que 6 mois qu'on l'utilise, en disant, c'est bon, parce que le gars nous disait, en fait, j'ai trouvé un plan pour que les escargots, parce qu'il s'emmerde à ramasser les escargots. Alors, il a mis des poules, mais la première fois, c'est le renard qui a bouffé les poules, la deuxième fois, c'est des gens, enfin, c'est des êtres plus difficile à qualifier que le renard, c'est les roms. Enfin bon, c'est compliqué. On est dans des mondes compliqués. Voilà. Mais en tout cas, il avait trouvé un réseau court pour que les escargots finissent évidemment dans un restaurant bio. Et donc, parce que ça, on voit bien comment un monde, ce que j'appelle dans le bouquin le contre-anthropocène, s'organise. C'est-à-dire qu'en fait, on recrée un monde dans l'interstice, hein, dans le micro-monde. Voilà, donc c'est ça qui nous intéresse, mais le problème, c'est que, évidemment, le micro, le macro, aujourd'hui, comme tu l'as dit, hein, on ne peut plus séparer, quoi, c'est compliqué. Donc là, ici, on a, juste en face, on a un truc qui a été construit dans les années 70. Alors, on peut quand même imaginer qu'aujourd'hui, ça sera assez difficile de projeter, de mettre une centrale. Alors, c'est le Blayer, ouais, c'est la centrale du Blayer. Et Ségolène Royal a eu l'idée géniale de finaliser un projet qui traînait depuis longtemps, de créer une aire marine protégée dans la zone, dans une zone qui est marquée donc par 3 pressions déjà très fortes, c'est-à-dire une surutilisation des phytosanitaires, pour parler pesticides et insecticides. C'est plus clean quand on va interviewer les gens des vins de Bordeaux, maintenant qu'il y a vivant, en plus, c'est phytosanitaire, il faut être sérieux, parce que pesticides, tout de suite, on voit, c'est l'usage journalistique, c'est noir, c'est les gars. La centrale qui aujourd'hui confiance, alors là les gens de la région de Bordeaux n'ont plus confiance, ça c'est l'effet Fukushima. Dans le sud-ouest, un truc comme ça qui est totalement improbable, il y a avant Fukushima, et c'est-à-dire qu'il n'y avait pas régulièrement des doutes sur les incidents, sur la gestion du truc. Évidemment, les impacts du changement climatique en Aquitaine, il y a un très beau rapport collectif coordonné par Hervé Lotreut, avec qui on discute pas mal. Qui a essayé de voir comment concrètement, une fois qu'on a les données du GIEC, si on les descend en échelle, ce que ça produit, évidemment, l'Aquitaine est particulièrement sensible. Et c'est un rapport qui est intéressant, parce qu'on voit bien d'une part la puissance, la légitimité du GIEC aujourd'hui hein, pour configurer les problèmes au niveau local. Donc on n'a pas du tout de climato-scepticisme dans ce contexte-là. Mais par contre, la difficulté des thèmes de l'adaptation et de la réadaptation de ces modèles du GIEC dès qu'on est dans une localité où c'est beaucoup plus compliqué en fait. Et on ne peut pas ramener ça à des émissions de CO2 et à des modèles climatiques. L'idée géniale de ce Golden Royal, donc, c'est de construire ce... Donc, vous savez qu'il y a une stratégie nationale sur les aires marines protégées, qui est très intéressante. Donc, on est dans un littoral qui est extrêmement précieux, une histoire longue, je ne vais pas revenir. C'est un polder, en fait, une partie du Médoc. Vous avez évidemment la côte charentaise, marquée régulièrement par des événements extrêmes. Alors là, ce n'est pas le Var qui déborde, mais enfin, quand même, c'est des trucs qui sont liés aussi à l'artificialisation. Et évidemment, dans cette zone, nous, on a choisi donner ce terrain-là à un moment donné, reprendre un estuaire pour pouvoir le comparer avec d'autres estuaires. Donc là, on en a un en Grande-Bretagne, je ne vais pas trop le développer, je n'ai pas le temps, et on travaille sur donc, la fin du Rio Doce au Brésil. C'est pas vraiment, enfin, ça ressemble à un estuaire, c'est pas vraiment un estuaire, mais enfin, ça ouvre sur la mer et ça ressemble un peu, aujourd'hui complètement couvert de boue toxique, comme vous savez, on va y revenir. Et donc, cette zone, évidemment, d'estuaire, elle est intéressante parce que, bon, ça, vous l'avez dans le journal du CNRS, alors j'avais pas fait gaffe, ils ont fait un dossier sur le signal, cet immeuble, sur l'érosion, qui était donc à 200 mètres de la mer et qui aujourd'hui est évacué parce que lors de la dernière tempête, les vagues venaient lécher les fenêtres. Et on voyait qu'on est au Verdon, ici. Et ce qui est drôle, c'est que les acteurs du secteur savent que ce polder, donc artificiel, construit pendant des siècles, hein, sur lequel la vigne s'est installée, etc., pourrait finalement, si l'hypothèse de submersion du GIEC, donc il n'y a pas que les îles du Pacifique, hein, et, voilà, venait se réaliser, et là, on a un signe tangible, donc là, on a les habitants, ils ont vraiment vécu, évidemment, ça peut modifier tout l'équilibre de l'estuaire, qui est déjà modifié par l'amont, parce qu'on peut remonter jusqu'à Sivin, ça, je ne veux pas le faire là, parce que ça serait long, mais évidemment, la Garonne qui arrive... C'est le résultat de tout ce qui précède en amont. Et donc, vous avez les industries, les villes, Toulouse, les antibiotiques des Toulousains. Il y a eu la fameuse mine qui était dans le Lot, qui mettait des métaux lourds, etc. Donc, la Garonne qui arrive. Et la mer, ça nous fait un milieu extrêmement turbulent. Et voilà, c'est pour ça que... Donc, penser les objets dans leur milieu, évidemment, ça coule sous le sens une fois qu'on l'a dit, qu'on l'a fait. Vous voyez que la centrale, elle est vraiment les pieds dans l'eau. Là, on la prend en ras donc, dans ce qu'on appelle le bouchon vaseux. Donc, le bouchon vaseux, c'est cette espèce de mélange d'eau de mer et d'eau de fleuve qui est un milieu extraordinaire du point de vue biologique et qui fascine les pêcheurs de la Gironde, qui sont nos interlocuteurs, évidemment, parce qu'eux, ils y trouvent bref. Le problème, c'est que là aussi, les événements marquants, alors c'est pas une explosion de méthane, là, mais c'est une tempête impressionnante, celle de 99. Il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu celle de 2006, il y a eu celle de 2010 et de 2011. Mais là, en 99, EDF s'est fait un peu piéger par la configuration de son site, puisque l'eau est passée au-dessus des digues. Il y avait une surcote, il y a eu une vague... qui est passé un peu au-dessus, et il y avait surtout une tempête extrêmement grande, qui fait que la centrale s'est retrouvée immergée. Donc c'était un petit Fukushima, sans conséquences pour l'environnement et la santé des habitants. Et vous avez un rapport parlementaire quand même qui vous raconte cette histoire, et c'est un aujourd'hui des exercices de crise des centrales. Ça fait partie des exemples les plus travaillés par les ingénieurs. Ce qui, voilà, on ne prévoit jamais assez bien. Hein. Bon. Ça n'échappe pas évidemment aux acteurs critiques, mais là vous voyez qu'ils font un rapprochement qui est intéressant. Et c'est la première fois que ça se produit. Là c'est Greenpeace, qui évidemment fait une campagne sur toutes les centrales nucléaires françaises, elles ont chacune leur spécificité. Et là vous avez surtout Château Lafitte, Château Margaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se payer des bouteilles, ou alors si nous, parce qu'on a des réseaux, on n'en a pas. C'est pas évident. Et vous rendez compte le risque d'image et de réputation lié au risque nucléaire, avec un scénario qui s'est déjà produit en 99. Et là, on est dans le post-Fukushima. Donc, des modifications continues. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec notre ange Josquin de Base, qui travaille sur ces terrains-là? On essaye de comprendre, en comparant des milieux, là, on en a pris quatre, comment, en fait, des choses qui étaient effectivement sous contrôle, pensées dans des secteurs différents de compétences, sont mises à l'épreuve par les acteurs et sont de plus en plus, effectivement, systémiques. Et on essaye de comprendre qu'est-ce qu'ils mettent dans cette notion-là et comment ils vont concevoir des notions Alors on les interroge, on ne sait pas ce que c'est que la résilience, on ne sait pas ce que c'est que l'adaptation, on ne sait pas ce que c'est que la régulation des risques. On essaie de comprendre sur chaque site. Alors on l'a fait pour le Blayais, là c'est là où on a le plus de matériel. Sur une clé pointe, on a pas mal avancé, on y a passé un séjour, notamment chez un activiste anti-nucléaire, qui mange des sites, une fiche tous les jours, donc ça c'est un peu difficile. Enfin bon, en tout cas on commence à bien connaître le site d'une clé pointe. On l'a fait sur Gravelines. On les a trouvés un peu rudes là-haut, enfin bon, il y a beaucoup de Céveso. Hein. Et puis, sur un autre site qui est fascinant en Angleterre, je vous conseille, si vous visitez la côte anglaise, c'est Dungeness, qui est une 600 ans qui va bientôt complètement fermer. Mais vous pouvez vous balader autour, vous avez un parc, un bird watch. Enfin bon, c'est... on n'est pas du tout dans l'enceinte complètement barricadée comme chez nous, c'est un autre monde. Voilà, donc à chaque fois, il y a des milieux différents. Et comme vous le voyez ici, là, c'est un exemple de dispute hein, autour des éclairs anglais. Les acteurs font des rapprochements. C'est même pas nous qui décidons arbitrairement de rapprocher les choses. Là, le Blayais est introduit comme argument à propos de la question des clé points. Et pourquoi ? Ben parce qu'en Angleterre, ils se posent des questions, évidemment, des risques de submersion de leurs centrales. Oui. Évidemment, ils ont beaucoup de centrales en zone côtière, qu'il y a déjà pas mal d'incidents. Donc des rapports circulent, qu'il y a des discussions, et qu'une clé pointe est fortement controversée. Donc là, vous avez la maquette, hein, elle n'existe pas, évidemment, ces deux réacteurs EPR, comme vous le savez, sont fortement exacts. Donc ça, évidemment, engage aussi dans nos descriptions comment on regarde les visions du futur des acteurs et leur tentative de les réaliser, avec tout ce que ça implique de performativité ou pas. Là, pour l'instant, c'est pas très performatif, contrairement aux apparences. Et évidemment, bon, je passe sur la controverse. Nous, on a dégonflé l'éléphant. C'est bon, on fait aussi du participatif. Il fallait bien se rapprocher des acteurs. Donc, on les a aidés à dégonfler l'éléphant parce que les flics anglais sont quand même beaucoup plus cool que les nôtres. Hein. Ils disent, voilà, il est à 5h30, vous avez dégonflé l'éléphant. Alors, l'éléphant blanc, vous savez, c'est l'idée du truc totalement surdimensionné qui est complètement absurde. Et c'est de White Elephant, c'est dans les controverses sur les coûts, les méga-projets, ou choses comme ça, c'est souvent utilisé pour discréditer en fait un projet industriel. Et voilà. Oui. Plus doucement, je freine. Non, non, mais ça c'est la partie un peu illustrative. Donc je voulais aller vite pour ne pas m'y engouffrer. Mais vous voyez, suivre les controverses, il faut aller dans les milieux. Et tout ce qui peut surgir, nous on le prend en compte. Et c'est très important pour nous mais on pourra. Et très intéressant aussi, tous les milieux ont leurs histoires et leurs mémoires, évidemment, ils se configurent autour de ça. Tu l'as fait sur le Var tout à l'heure. Là, les antinucléaires ont été fouillés dans les archives, et en particulier celles d'EDF, pour rappeler qu'en fait, en 1981, ce qui n'est pas si vieux, il y a eu un épisode de submersion assez considérable. Vous voyez que la centrale de Nuclépôt se retrouve quasiment sur une île. Ce qui veut dire quand même qu'on a un projet d'installation de deux EPR, de deux réacteurs, dans une configuration en fait, qui est pire, finalement, d'une certaine manière, que le Blayais. Parce qu'on peut très bien imaginer, non pas un tsunami, mais enfin, en tout cas, une montée des eaux avec une tempête comme ils ont produit dans cette région, dans le Somerset. Et c'est entre le pays de Galles en fait et l'Angleterre, et là vous avez un estuaire qui est extrêmement, c'est tellement d'ailleurs animé que l'énergie marémotrice est en plein développement. Bon, j'avais une longue citation d'Anat Singh sur l'idée de récalcitrance par rapport évidemment aux tentatives pour synthétiser, pour représenter ça, et qu'effectivement l'enjeu des sciences sociales aujourd'hui, c'est d'arriver à porter à la fois la multiplicité des récits, la manière dont les savoirs sont liés à des expériences ancrées, et elle va le faire à partir d'un champignon, donc le fameux Matsutake, qui est un champignon assez rare, très prisé au Japon, qui pousse précisément dans des forêts qui ont été maltraitées. Enfin, il y a une dimension assez contre-intuitive de cette histoire-là, c'est pas la nature voilà, protégée à l'américaine, mais c'est au contraire quelque chose qui est en fait la ruine. Bon, je pourrais revenir sur Anat Singh, c'est pas forcément... comment dire, une dévotion, hein. C'est un appui, il y a Tim Ingold, il y a plein d'autres auteurs aujourd'hui avec lesquels on peut faire circuler ce qu'on essaye de faire avec le sensible. Je crois que c'est important. Alors, rapidement, ça c'est le côté, remettre un peu tout ça dans le contexte, surtout français d'ailleurs, mais pas que. Donc il y a un chapitre du bouquin qui s'appelle « La puissance d'expression des prédicateurs de l'Anthropocène ». comment s'est fabriquée en fait cette puissance de l'énoncé en disant « nous sommes à l'ère 2 », etc., face à Gaillard. Bon, je ne vais pas vous refaire tous les trucs, vous les connaissez. D'ailleurs, voilà. Évidemment, un des gros appuis qui a donné la puissance à cette idée que nous sommes entrés dans une nouvelle ère géologique, etc., et qui est évidemment produite par le capitalisme, donc capitalocène en fait, le travail du GIEC, aujourd'hui, est un appui majeur. Mais vous voyez que le GIEC est un personnage politique intéressant. Évidemment, il y a la science du GIEC, mais il y a aussi la manière dont le GIEC scénarise et construit le global. Et bon, moi, mon hypothèse, c'est qu'ils l'ont écrit pour le pape François, ça. Ils ont proposé ce schéma pour le pape François, comme ça, ils pouvaient retrouver ses fondamentaux. Paradis, enfer, le haut, le bas. Mais ce qui est important, c'est bien la participation, les trois bonhommes, c'est-à-dire, donc trois, c'est le minimum pour délibérer. À deux, c'est plus dur. C'est la vie de couple, après, c'est autre chose. Et donc, comment les chemins vont se décider, en fait, dans un processus itératif, stochastique, en l'occurrence, là, mais qui dépend du politique. Et on peut aller en enfer, on peut aller au paradis, avec des futurs qui sont posés. Donc, on connaît, en fait, on a une représentation globale, on connaît les deux destinations possibles, et là-dessus, il faut construire l'histoire. Vous voyez, quand même, c'est très intéressant comme téléologie organisée. Donc là, l'idée, c'est de sortir un peu de ça. Et il y a un premier appui, c'est l'autre grande agence internationale qui est maintenant l'IPBES, donc la plateforme internationale pour la biodiversité, qui, elle, évidemment, est obligée de composer justement avec tous ces milieux dont on a parlé tout à l'heure. Et donc les écosystèmes, ben, ça va être beaucoup plus difficile à représenter dans un modèle général de circulation, par exemple, comme celui du GIEC, où on va pouvoir agréger toutes les données, faire travailler ensemble des océanographes, des satellites, des modélisateurs, etc. Là, il va falloir tenir compte d'un tas de gus, y compris évidemment des autochtones, y compris des gens qui ont un usage qu'on considère comme illicite, par exemple des coraux, des mangroves, etc. Et du coup, vous lisez ce rapport-là, donc, qui est une espèce d'exercice prospectif de l'Agence de l'environnement de l'ONU, le LINEP, qui essaie d'identifier 21 les issues, quoi, les problèmes, quoi, et qui à chaque fois, sur chaque fiche, en fait, vous avez « oui, mais attention, les populations locales, ça va être un problème, ça fait partie du problème ». Et du coup, on ne peut pas balancer un modèle. Donc, je ne vais pas entrer dans la controverse, mais elle existe. C'est une citation de Clive Hamilton qui a un certain succès, vous savez, donc qui explique en fait comment la rhétorique de l'anthropocène justement est à prendre au sérieux parce qu'elle est fondée sur un turning point, un basculement de la science, donc avec un vrai modèle du système Terre, donc ça y est, mathématisé avec sa physique, etc. Et en face, des réactions qui sont plus proches des nôtres. Alors, c'est pour ça qu'on est pris, qu'il faut se situer là-dedans. Je pense notamment à Simon Dalby, mais surtout, que je connais mieux, c'est Mike Hulme, qui n'arrête pas de produire des textes, là, c'est collectif. C'est l'idée qu'effectivement, la vision top-down se réimpose, décontextualise, et amène tout le monde à entrer dans un système. Alors, c'est vos questions sur le développement durable, sur la gouvernance, sur la sustainability, etc., où en fait les normes descendent d'en haut avec des espaces de calcul qui prennent en charge d'emblée votre conception du risque. Vous êtes obligé d'adhérer finalement à une définition. Donc paradoxalement, tu vois, on fait rentrer les populations dans la définition, etc., mais en même temps on leur cadre. C'est un framing. Voilà. Donc moi je suis plus d'une tradition où les futurs ne sont pas déterminés. Donc là je le cite notre ami Gaston. Berger, bien sûr, parce qu'après il y aura Gaston Lagaffe. C'est que le futur n'est pas écrit, même par le GIEC. C'est dommage. On a eu la discussion avec Cavallotrot, d'ailleurs, il y a un enregistrement, ça vous intéresse. Il dit oui, non, bien sûr, non, nous c'est simplement un modèle, puis voilà, il tombe bien. Pourquoi le futur n'est pas écrit? Parce qu'il doit être construit en permanence. Et que chaque décision, discussion, petit pas, etc. Et donc, de fait, en ouvrant les futurs dans l'esprit d'une prospective vraiment appliquée au pragmatisme, en faisant travailler ensemble les deux, donc indétermination radicale, mais il n'y a pas besoin de pragmatisme pour ça, hein, Claude Lefort le disait, le futur n'est pas déterminé, il est par nature indéterminé, il faut le déterminer, précisément, c'est ça le problème du politique. On va devoir prendre en compte dans la description des micro-phénomènes, par exemple le gars qui grève sa vigne, sans tout de suite lui rire au nez.
excusez-moi pour Dominique Pérez, la compagnie, mais on ne peut pas rironner d'emblée aux acteurs en disant « Ouais, non, les petites solutions !»
Pareil.
Non, il n'y a pas de grandes solutions, il n'y a pas de petites solutions. Il y a des acteurs qui expérimentent, qui ouvrent, qui ferment les futurs. Et l'objet des controverses et des expériences sensibles, c'est ce travail permanent. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'effectivement le rapprochement est intéressant. Alors ça a des conséquences sur le savoir, c'est pour ça que je parlais de PES, parce que sur l'histoire des sciences, il a sorti des gros tomes sur le savoir. Évidemment, très fortement orienté par l'idée que c'est quand même le capitalisme qui tire tout ça. En fait, non. Il y a des moments d'épuration paradigmatique et il y a des moments de rupture. Il y a des conflits de paradigmes qui durent. Bon, je vois sur la toxicologie, par exemple, où il n'y a toujours pas de consensus absolu sur ce qui fait la dose et l'effet, etc. Bref, on l'a fait notamment avec Josquin sur les perturbateurs endocriniens et la question des tensions épistémiques dans plein de disciplines, endocrinologie, biologie, toxicologie, épidémiologie. Il y a des modèles complètement en conflit. Et on ne peut pas dire ça va dans ce sens-là ou c'est porté uniquement par le lobby des industriels de la chimie. C'est un petit peu, je trouve, réducteur. Et donc, il faut être très attention à toutes les petites différences qui naissent des confrontations et des expériences. Ça a des conséquences, parce que même une agence comme l'Agence pour l'environnement, européenne pour l'environnement, avec laquelle je travaille pas mal, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'échanges, et ils sont très preneurs de notre vision, justement, un peu anarcho-libertarienne, du pragmatisme appliqué aux grandes controverses. C'est-à-dire qu'on est passé quand même de quelque chose où très longtemps le gestion du risque s'est fait sur un modèle de cible, de spécification. Vous avez un problème chimique, en fait, c'est un problème de contamination chimique. Ok, bon, ça relève des persistants dans l'environnement, dans des zones qui ont été. Voilà. Vous avez le diffus, où là, c'est marqué surtout dans les années 80-90. En Europe, c'est surtout la vache folle qui a porté ça. C'est ce truc qui était un peu partout, le prion, la protéine prion qui circulait, compris dans les rouges à lèvres. Bon, c'est quand même. Voilà, parce qu'il y avait des dérivés du bœuf qui servaient à fabriquer des trucs. La graisse animale est surexploitée. Et aujourd'hui, le systémique, dont on a du mal à sortir, qui veut dire qu'effectivement, la cohérence des politiques publiques devient de plus en plus compliquée, parce qu'il faut faire travailler ensemble des gens qui s'aiment pas. Alors, bon, j'avais remis un coup de tsing, là, mais c'est vraiment parce que je suis en train de finir de lire. Hein, bon. Ça a des conséquences institutionnelles. Par exemple, on a un peu travaillé avec la Californie. On n'utilisera pas beaucoup dans le bouquin parce qu'on n'a pas assez de billes, mais quand même, on a fait 2-3 textes là-dessus, sur l'idée que, par exemple, l'agence de protection de l'environnement californienne, donc c'est vraiment au niveau de l'État, pas au niveau fédéral, c'est pas la même EPA que celle dont on parle beaucoup dans les médias, elle a développé avec les populations locales, sur le thème de l'environmental justice, en fait, une nouvelle méthode d'évaluation des risques pour comprendre précisément les effets de risques cumulés. C'est-à-dire, par exemple, typiquement, des gens qui sont à côté d'un échangeur d'autoroute, qui ont un incinérateur, et qui en plus ont une eau complètement pourrie par l'agro-business de la Central Valley. Quoi. Et du coup, là, il y a tout un travail sur la redéfinition des protocoles. Et là, l'Agence de protection de l'environnement au niveau fédéral commence à prendre en compte ces expériences. La Californie est toujours un peu un laboratoire, mais avec les limites qu'on connaît. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'acceptabilité aussi. Bon, je passe là-dessus. Une pluralité de définitions du systémique, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, parce que sinon je vais faire comme mes prédécesseurs, je vais déborder. Mais il y a au moins 5 ou 6 définitions différentes. C'est Gaïa, donc le systémique, c'est en fait tout est lié. C'est Bruno dans sa grande forme, vous voyez, quand il nous sort un peu tôt, le monde mêlé. C'est au contraire très local, c'est vraiment les interdépendances d'un système, d'un écosystème déterminé. Par exemple, voilà, un estuaire. Une mangrove, une forêt, un étang, etc. Une zone humide. Alors, vous votez ce que vous voulez dimanche prochain. Pour moi, je ne vais pas voter, je ne suis pas des milieux du coin. Mais voilà, vous défendez la zone humide et la ZAD et contre l'aéroport ou pas. Donc, vous avez tout un milieu qui a sa propre cohérence. Au contraire, c'est des interactions entre des éléments qui sont totalement hétérogènes. Et c'est beaucoup utiliser cette notion systémique pour les gens qui essayent de porter la problématique des cocktails, c'est-à-dire le fait qu'on a la pollution de l'air, on a de la pollution de l'eau, on a des antibiotiques, on a des machins, etc. Donc en fait, on est dans des combinaisons. Et que on ne peut plus dissocier risque après risque, etc. Ça peut être simplement renvoyé à la pluralité des acteurs et des porteurs d'intérêt qui font qu'on a un système, en fait, et c'est particulièrement sensible à la pollution atmosphérique. Quand vous voulez tirer sur un acteur, par exemple les vieilles bagnoles ou les poids lourds ou le chauffage urbain, ben, vous réactivez en fait les interdépendances des différents acteurs. Et bon, non, il y a la théorie avec laquelle je travaille un peu en ce moment, des systèmes complexes,
en essayant d'éviter quand même une dimension positiviste qui reste chez eux assez forte. C'est quand même cette idée qu'on est aujourd'hui dans des systèmes non linéaires, et quand on parle en fait de risque systémique, c'est essentiellement ça qu'on dit. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas prédire le comportement des systèmes.